livre de Daniel. Et donc cette fois-ci, nous aborderons le chapitre 5. D'abord, le contexte que je rappellerai rapidement. Au chapitre précédent, nous avons vu qu'un roi non-juif, Nebuchadnezzar, a témoigné au monde entier de sa conversion au Dieu d'Israël, et ceci après une terrible épreuve. Déchu de son trône, humilié telle une bête errante dans la nature, Dieu va rétablir Nebuchadnezzar sur son pouvoir et ses serviteurs. C'est un peu ce que nous avons vu la dernière fois s'agissant du chapitre 4 du livre de Daniel. C'est donc une expérience rare dans l'histoire de l'humanité, mais Dieu prouve par là une chose. C'est que toutes les autorités qui gouvernent les nations n'échappent pas à sa volonté souveraine. Dieu est souverain. Il n'y a point d'autorité qui soit en place sans la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, s'agissant de ce roi, l'homme le plus puissant de la terre entière. L'archéologie a donné de nombreuses preuves de l'existence justement du roi Nebuchadnezzar, connu aussi sous le nom de Nabonide par certains historiens. Ici, vous avez une stèle de Nabonide qui a régné justement entre 556 et 539 avant notre ère. D'autres historiens pensent également que Nebuchadnezzar est mort en l'an 562 avant Jésus-Christ. Mais la Bible ne parle pas de la mort de ce roi, très clairement. Donc voilà pourquoi j'ai pensé nécessaire quand même de faire ce petit rappel archéologique s'agissant justement des rois qui ont dirigé ce royaume. Les inscriptions cunéiformes détaillent justement son règne et donnent un aperçu sur ses croyances, sur ses campagnes militaires et de la construction justement de nombreux temples dédié à Sin, qui est le dieu lune. On voit que l'archéologie progresse dans la connaissance de l'histoire de ces peuples d'Orient. Et là, en particulier, j'ai trouvé un article, ici, qui a été publié en 1988, écrit par un certain Wessel Dombasle, qui justement décrit deux nouvelles inscriptions de Nabonide, arrivé à décrypter justement cette littérature, cette écriture cunéiforme. Alors ça m'a un peu interpellé, donc vous voyez, c'est pas simple comme écriture. Donc, vous voyez, ça ressemble à des clous. Comment arriver à extraire le message à travers une écriture aussi complexe? Pardon. Alors, je n'étais pas en projection, je suis désolé. Voilà. C'est mieux ainsi. Alors, donc je vais reprendre le fil de mon texte. « ou même peut-être revenir un peu en arrière pour que vous voyez un peu cette stèle de Nabonide. Donc, voyons, on le voit avec son sceptre. Donc, on a des preuves archéologiques de son existence. Et là, vous avez justement, donc, en couverture de la revue qui a publié l'article de Vaisselle Dombasle en 1988. Et vous voyez justement cette écriture cunéiforme qui ressemble à une suite de clous. Mais comment décrypter ce message? Alors, excusez-moi, un petit souci informatique. Voilà. Et toujours par rapport à l'archéologie, ici, vous avez une tablette cunéiforme, une chronique de Nabonide qui relate la chute de Babylone. Une tablette encore visible au musée à Londres, au British Museum. Quelque part, l'archéologie a contribué à combler le fossé entre l'histoire biblique et le contexte plus large des anciennes cultures de la Mésopotamie. Donc, voyez-vous, nous avons là la preuve de l'historicité de la Bible, l'archéologie qui témoigne de certains faits relatés justement par la Bible. Donc là, clairement, dans cette chronique, donc, ça parle de Nabonide et de la chute de Babylone. Et nous verrons effectivement que Nabonide était vivant, présent, lors de la chute de ce royaume. Alors, Nabonide et son fils Belshazzar, qu'il nomma roi, co-dirigèrent pendant un temps l'empire babylonien. On parle d'ailleurs de co-régence. Ça veut dire que le roi et son fils ont en même temps régner sur cet empire. Alors, Belshazzar, on trouve parfois le nom de Balthazar. En fait, en hébreu, ça équivaut à Belshazzar. En acadien, vous avez un autre nom, c'est Bel Sarahoussour, qui veut dire quoi? Que Bel protège le roi, le dieu lune, que Bel protège le roi. Ça vous rappelle aussi quelque chose, Daniel? Quel est le nom que le roi lui avait donné? Belshazzar. On voit que parfois certains noms pèsent sur ceux qui les portent. Daniel, promu à des fonctions hautement éminentes dans la cour de Jérusalem, qui se retrouve déporté en Babylonie et qui va devoir changer de nom. Belshazzar. Que Bel protège le roi. Alors, dans ce chapitre 5, nous répondrons à plusieurs questions. Le nouveau roi Belshazzar allait-il marcher dans les pas de son père? Deuxième question, ou au contraire, allait-il trouver sa propre voie? Et enfin, finalement, quel serait le dessein arrêté de Dieu sur ce roi? Donc voilà les réponses que nous essaierons donc de trouver dans le chapitre 5 du livre de Daniel. Alors, je vais vous inviter à lire. Nous aurons plusieurs lectures séquentielles. Je vais vous inviter à lire les 9 premiers versets de ce chapitre. Daniel 5, 1 à 9. Si tout le monde a trouvé, donc je lis. Daniel 5, 1 à 9. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et louèrent des dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'un homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors, le roi changea de couleur et ses pensées se troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les Chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. À la lumière de ce premier texte, j'ai d'emblée intitulé le titre de mon message « L'incrédulité d'un roi et le jugement de Dieu ». Voilà le titre qui s'est imposé à moi pour ce qui est de ce message. Nous voyons en premier la profanation des vases du temple. La déportation d'Israël à Babylone était un jugement de Dieu, non seulement à l'égard de son peuple Israël, mais aussi à l'égard d'autres peuples. Le prophète Jérémie est celui qui a le plus prophétisé sur Babylone. On retrouve environ 152 citations. Autrement dit, plus de la moitié de toute la Bible. 152 fois, il est question de Babylone dans le livre de Jérémie. J'ai pris juste un exemple. Ici, en Jérémie 21:10, c'est le Seigneur qui parle. « Car je dirige mes regards contre cette ville pour faire le mal et non du bien, dit l'Éternel. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone qui la brûlera par le feu. » Oui, C'est une décision arrêtée par Dieu au regard de l'infidélité d'Israël. Elle sera brûlée. Mais, dans le texte que nous venons de lire, nous constatons que le fils Belshazzar exhibe les trophées de guerre de son père et profane délibérément les vases dédiés au culte du Dieu d'Israël. Versets 3 à 4. Il est dit ceci, le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, s'en servirent pour boire, ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Je crois que j'ai quelques soucis d'affichage que je vais régler immédiatement. Voilà. Alors, je crois que je n'avais pas la bonne projection. Et c'est ce que je vais rétablir rapidement. Ce qui est fait. Alors, j'en étais là. Alors, pardon pour ces petites confusions au niveau de l'affichage. Et là, je crois que nous y sommes. Donc, voyez-vous, ce roi a délibérément profané les ustensiles que le Seigneur avait ordonné de réaliser pour le sacerdoce dans le temple à Jérusalem. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. D'après les historiens grecs, au moment de ce festin, l'armée de Cyrus avait déjà envahi et occupé la province et la ville de Babylone elle-même assiégée. Rendez-vous compte. Pendant qu'ils sont en plein festin, ils ne se doutent de rien. Pourtant, la ville est déjà assiégée. Ils louèrent des dieux d'or, des dieux d'argent, des dieux d'airain. Et ils ne faisaient aucun cas du Dieu d'Israël. Quel comble! Souvenons-nous que Babylone était une ville fortifiée, entre guillemets, imprenable. Ses murailles de triple largeur et hautes de 100 mètres. Quelle assurance! Il pouvait effectivement être dans une attitude de sûreté au regard de ce qu'ils avaient construit comme forteresse. Autant de raisons justement qui expliquent cette orgie organisée par Belshazzar pour ses convives dans l'insouciance et le mépris du Dieu vivant. Pourtant, c'est un fait que Jérémie avait prophétisé. Une orgie d'une telle ampleur avait été prophétisée déjà par le prophète Jérémie. Cette prophétie, on la trouve au chapitre 51, au verset 39, qui dit ceci. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire et je les enivrerai pour qu'il se livre à la gaieté, puis s'endorme d'un sommeil éternel et ne se réveille plus, dit l'Éternel. Le compte à rebours avait déjà commencé. Rendez-vous compte, cela avait été déjà annoncé par le prophète Jérémie. Mais Dieu use de patience, et précisément, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On l'a vu avec le Père. Dieu a à plusieurs reprises donné des avertissements à Nebuchadnezzar. Il en est autant aujourd'hui pour le Fils. Une main miraculeuse qui écrit un message sur un fond immaculé. L'Écriture parle ici de la chaux. Une main miraculeuse qui écrit que le roi perçoit, mais évidemment qu'il ne comprend pas. Un message en araménien, illisible, qui plus est, incompréhensible, qui plongea le roi dans un total désarroi. Une fois encore, les sages et les magiciens du royaume ne purent donner l'explication au roi malgré la promesse de grandes récompenses. Un manteau de pourpre d'une valeur inestimable, un collier d'or à son cou, la troisième place dans le gouvernement du royaume. Et justement, nous, on peut s'interroger, d'après ce que nous avons lu dans le chapitre précédent, c'était Daniel qui était à la troisième place du royaume. Et là, effectivement, où était-il? Était-il encore dans la cour du roi? On peut effectivement se poser la question. Il est question de la troisième place dans le gouvernement du royaume. On peut imaginer une première place, celle du père, le roi Nabonide, étant le roi d'honneur, puisqu'il est question d'une co-régence du royaume. Donc Nabonide, d'après les historiens, vaquait à ses conquêtes, et donc conquête militaire, bien sûr. Et à ce titre, il était évidemment considéré comme un roi d'honneur. La deuxième place était occupée par qui? Bien sûr, le roi en exercice, le fils, Belshazzar. Et une troisième place que l'on peut considérer comme une sorte de vice-présidence. Mais en tous les cas, après les deux rois, ben, cette personne devrait occuper cette troisième place. Mais l'Écriture nous rapporte que ni les mages, ni les Chaldéens, ni les astrologues n'ont pu apporter la réponse qu'attendait le roi. Et ainsi, qui donc pour sortir le roi de ce tracas? Je vous invite donc à poursuivre notre lecture du livre de Daniel, et cette fois-ci nous lirons les versets 10 à 12. Verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit des dieux saints. Et du temps de ton Père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Alors, la charge venait donc à la reine mère de trouver qui pourrait apporter la réponse au roi. Et ce fut donc Daniel, comme on l'a lu tout à l'heure. En réalité, les épouses du roi étaient présentes au festin, comme on l'a vu, verset 2. Et celle qui est intervenue, il s'agit de la reine mère, la femme de son père, donc de Nabonide, ou de la veuve de Nebuchadnezzar. Donc rappelez-vous en introduction, l'archéologie a donné la preuve de l'existence de Nabonide. La Bible ne parle pas non plus de la mort de Nebuchadnezzar. Et donc logiquement, on peut envisager ces deux possibilités, à savoir Nabonide, père de Belshazzar, ou alors Nebuchadnezzar, mort, auquel cas il s'agirait de sa veuve, la reine mère. On comprend alors, j'ai noté, sa connaissance, la reine mère de Daniel, âgée à présent de plus de 80 ans et ignorée volontairement ou pas par Belshazzar. Daniel était à un âge avancé, ce qui explique qu'il soit un peu en retrait par rapport à la cour. J'ai noté que par son âge et de sa plus grande proximité avec Nebuchadnezzar, la reine mère était bien placée pour conseiller le roi. Daniel est ainsi invité à venir à la cour, mais il refuse d'avance les réponses promises par un roi qui, il le sait, mourra le jour même sous le jugement des dieux. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Daniel va apporter l'explication. Mais les promesses faites par le roi, Daniel les a refusées d'emblée. Car il connaît la suite. Daniel les a refusées. Aussi, vu ce qui se passera cette nuit même, la promotion promise n'était donc pas réaliste. Daniel l'a compris. Il n'y aura pas de troisième place. Il a décliné l'offre du roi. Maintenant, nous allons voir l'explication qu'a donnée Daniel par rapport à cette écriture sur la muraille. Daniel 5, versets 17 à 30 heures. Alors, c'est toujours projeté. Je vais demander à une sœur ou à un frère de lire, peut-être. Nadine ou Lionel, tu peux les lire. Alors, donc, vous voyez le déroulé des événements. Cette même nuit, Belshazzar trouva la mort. Et pour revenir sur ce texte, Daniel, d'emblée, commence par l'inexcusable. Belshazzar, qui a appris comment Dieu a conduit le roi Nebuchadnezzar. Il était témoin. Il l'a vu. Mais pour autant, il n'a pas choisi la voie de son père, il a choisi la sienne. Et Daniel lui rappelle, avec force, tu n'es pas excusable. Tu as vu ce que Dieu a fait pour ton père. Quelle leçon en as-tu tiré? Ça, c'est le premier point. Ensuite, courageusement, Daniel reproche plusieurs choses au roi. Premièrement, son manque d'humilité envers Dieu. Et deuxièmement, son adoration pour des idoles aveugles. Si cela ne suffisait pas, sourd. Et ignorant qui n'ont rien fait pour lui. À l'image du Dieu vivant d'Israël, le roi Belshazzar s'est prosterné sur des idoles. Quel contraste! Voilà ce que Daniel reproche au roi. Puis, il affirme que c'est là la raison pour laquelle Dieu a envoyé la main tracer ces mots mystérieux sur la muraille. Mais quoi donc? En effet, Dieu use de patience, encore aujourd'hui, ne voulant qu'aucun périsse. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et on le voit ici à nouveau avec ce roi, la patience de Dieu. Patient et qui continue de donner des avertissements. Alors, quelle était la teneur de ce message ? Compter, signifiant quoi? Dieu a compté les années de ton règne et y a mis fin. Il a mis un terme. Voilà, c'est comme Saül. Dieu l'a arrêté tout simplement. La décision est prise, elle est irrévocable. Aucun de tes descendants ne régnera sur le trône d'Israël. Dieu est patient, mais il vient un temps où il agit. Et à partir de là, ça devient irrévocable. Comptez. Dieu a compté les années de ton règne et y a mis fin. Ensuite, pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger, très léger. Puis, est divisé, en d'autres termes brisé, qui veut dire ton royaume sera divisé ou brisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Là encore, Jérémie l'avait prophétisé très clairement. Autrement dit, la chute de Babylone, annoncée longtemps à l'avance par Dieu, est imminente. Voilà ce que Daniel a dit au roi, sur le champ. Dieu a mis un terme à ton royaume. La chute est imminente. Après cette terrible nouvelle, le roi tient néanmoins à récompenser Daniel. Pourquoi ? Dans l'espoir de sauver son royaume, qui l'espérait éternel ? Souvenons-nous, depuis le Père, le roi, il espérait un royaume éternel. Hélas, trop tard. Cette même nuit, Belshazzar est assassiné. Son royaume prend fin pour céder la place, comme Dieu l'avait annoncé, aux Mèdes et aux Perses. Verset 30. J'ai noté que ceci confirme le récit historique, comme quoi les Perses et les Mèdes étaient bien dans les faubourgs de Babylone. Cette nuit-là, ils étaient là, présents. Et savez-vous comment Babylone a été prise ? C'était des stratèges militaires, les Perses et les Mèdes. Ils étaient là, là aussi c'est le récit historique. Donc en fait, ils ont détourné le cours de l'Euphrate, vous voyez ? Et à partir de là, ils avaient une autoroute pour entrer dans une ville fortifiée, des murailles de 100 mètres. Comment vous allez entrer? Vous voyez? Des stratèges militaires que Dieu a conduits. Ils ont détourné l'Euphrate. À partir de là, ils avaient le lit du fleuve pour contourner les murailles de 100 mètres. Et ils sont entrés pendant que le roi festoyait la chute de l'Empire babylonien. Alors, pour conclure, et surtout pour être pratique, j'ai noté deux points. Le premier, c'est qu'à travers ce texte, qui date d'environ 2000 ans, Dieu nous demande, « Toi, es-tu Nebuchadnezzar ou Belshazzar ?» Voilà deux rois au comportement tout simplement antinomique. Ce texte est encore valable pour nous, ce texte nous parle. Et moi le premier, suis-je Nebuchadnezzar ou Belshazzar? Et en particulier, il y a ce texte de l'Épître aux Hébreux qui est parlant, qui dit ceci, « Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. » Hébreux 3, 15. Et si nous sommes repentis et avons reçu le pardon de nos péchés par la foi au Fils de Dieu, crucifié, mort à la croix, alors nous sommes invités à louer Dieu de ce salut offert par pure grâce à quiconque reconnaît humblement, ne pas faire le poids devant le Dieu vivant. Nos vies sont comptées. Ferons-nous comme Belshazzar ? Serons-nous légers devant Dieu ? Voilà une invitation solennelle du Seigneur ce matin. Approchons-nous chaque jour avec humilité devant le Dieu vivant et puissant qui a donné son Fils, Jésus-Christ, pour nous. Donc voilà le message que je voulais vous apporter ce matin, historique, mais encore d'actualité. Les puissants de ce monde s'agitent, mais le plan de Dieu s'accomplira inévitablement. L'Éternel ne dort ni ne sommeille. Il règne. Il est vivant. Amen.